Chapitre 5. 28 mai. Mon cousin était morose ce matin. D'abord parce qu'on s'attendait à une invasion aujourd'hui. Les avant-gardes de cette catastrophe entouraient déjà la platière. Ensuite, parce qu'il est découragé à mon sujet et se dit que je ne ressemblerai jamais à ce bourgeois empalé, assommant et rigide comme un pieu, qui s'appelle Roland le ministre. En mangeant des escalopes, il manifestait ainsi sa mauvaise humeur. Je n'aurais jamais cru, Hélène, que des occupations pratiques, prosaïques même, ne pussent avoir une influence efficace sur le désordre de tes idées. Quelle phrase admirablement construite et arrondie, un subjonctif et trois mots distingués, influence, efficace, désordre. D'abord, répondis-je, qu'est-ce que le prosaïsme, cousin ? Je nie son existence. Est-ce pour cette raison que je t'ai trouvé tout à l'heure en contemplation devant un crapaud ? Il était charmant et avait des yeux superbes. Je le caressais avec le bout d'un bâton et il fermait les paupières, les relevait ensuite d'un air béat, comme vous, tuteur, quand vous fumez votre londresse. J'aimerais assez n'être pas comparé à un crapaud, Hélène. C'est ridicule à la fin de ne pouvoir dire trois mots raisonnables. Je n'ai pas dit que vous étiez charmant, tuteur. Vos yeux ne ressemblent point à ceux de mon batracien. Soutenir qu'un crapaud est un animal charmant, quand tout le monde s'entend pour le trouver affreux. Ah, votre tout le monde, c'est bien pour moi l'être le plus étriqué qui se puisse imaginer. Pour le coup, ce serait le prosaïsme en personne, si le prosaïsme existait. Mais dans la bêtise humaine, il y a tant d'éléments d'observation et une source si féconde pour l'ironie que ce serait grand dommage si elle n'était pas. Et les impertinentes, qu'en fais-tu ? Oh, un bien réel pour les hommes, dont elles tiennent l'esprit en éveil. Aussi, pourquoi attaquez-vous mon crapaud ? Parlez-moi de Saint-François d'Assise, lui au moins savait comprendre. Qu'est-ce que Saint-François d'Assise vient faire ici ? S'écria mon cousin. On ne peut pas causer avec toi d'une manière ordinaire et sensée. C'est que je pensais à lui en caressant mon animal. Il lui eût dit, petit crapaud, ce n'est pas parce que ta peau est grise et dégoûtante que tu n'es pas mon frère. Tu es l'incarnation de la vie universelle, comme les hirondelles mes sœurs, comme les poissons mes frères. Et vous avouerez, tuteur, que certains poissons ne valent pas mieux qu'un crapaud. Ton saint était un fou, conclut M. de la Platière. Alors la folie, comme je le dis toujours, a une grande supériorité sur la sagesse, car le petit saint d'Assise, avec ses oiseaux, ses poissons, peut-être même ses crapauds, a bouleversé l'esprit de son temps. Voyez-vous, cousin, il eût été capable de découvrir la grande poésie, même dans un tuteur. Je ne sais quelle eût été la réponse de mon débonnaire cousin si on était venu lui dire que l'invasion commençait. Et toute la journée, nous avons vu aller, venir, courir, des cavaliers qui entraient dans l'avenue, sortaient pour entrer de nouveau. Et mes pensées galopaient avec eux, gravissaient les collines qui nous entourent, en descendaient à fond de train pour les gravir de nouveau. Ah, charmant tout ce mouvement ! Plus de rêves, plus d'idées spéculatives. L'activité, l'action, le tintamarre humain qui se prend au sérieux. Galoper, idées et cavaliers. Et que la vie est donc chose délicieuse. Chapitre 6. 29 mai. Nous sommes en pleine guerre. Mon enthousiasme se maintient. On tue des poulets. La basse-cour ressemble à une plaine décimée par le passage des barbares. Il y a une minute, j'ai ordonné encore le trépas de deux pintades et mon cousin, touché par la contagion de l'héroïsme, a fait porter trois poules à des soldats qui ont une marmite sur un trépied, comme les sorcières de Macbeth. Seulement, celle-ci devait être dans des cavernes et nos soldats composent leur infernale cuisine au milieu des bruyères, sous l'œil de Dieu et de Monsieur de la Platière. Chapitre 7. 30 mai. Ce matin, réveillé par le canon, par le roulement de l'artillerie, par l'arrivée de trois sous-lieutenants qui demandaient un morceau de pain. Ils mouraient de faim. Depuis 4 heures qu'ils guerroyaient, ils n'avaient rien mangé. À leur âge, l'âge de l'appétit furibond. En robe de chambre et tout ébouriffé, je leur ai fait parvenir une tasse de café qu'ils ont acceptée en bénissant les âmes hospitalières qui ont pitié des grandes infortunes. Dans la journée, grand branle-bas. Un général et tout son état-major se sont abattus ici comme de gros pigeons dévastateurs. En passant, ont ravagé un petit lunch et sont repartis 4 à 4 en nous disant que, demain, toutes les forces se concentraient de notre côté, que la partie serait chaude dans la matinée. À l'aube, demain, je serai dans mon donjon. Chapitre 8. 31 mai. Se pourrait-il, grand Dieu, que ce fût percé ? Quelle aventure ! Dirais-je encore que notre époque est plate ? Comment n'aimerait-on pas la guerre avec son imprévu, avec la facilité qu'elle donne d'accomplir de grands sacrifices, de façonner les caractères au complet oubli de soi, de faire naître, même chez une faible femme, des qualités héroïques qui, sans elles, descendraient au tombeau avant d'avoir soupçonné leur propre existence ? Le beau temps que celui où, rapière aux côtés, ont tombé dans une embuscade pour en sortir par son adresse et son courage. Où, lance au poing, on courait sus aux moulins à vent. Mais que regretterais-je après l'aventure du jour qui a mis sur mon front le sceau de l'héroïsme et a coupé quelques-unes des cordes qui attachent Andromède ? Il y a dans mon donjon 2 petites fenêtres. L'une est tellement obstruée par les feuilles qu'elle disparaît à peu près entièrement. Ce matin encore, je les mets ainsi cachées parce qu'elle donne sur un hangar qui nuit à mes illusions quand je veux me croire dans une forteresse inaccessible. De l'autre fenêtre, celle qui éclaire tout l'appartement, je vois une étendue de pays assez grande pour satisfaire mon imagination et ma curiosité, quand notre campagne sauvage est parsemée d'officiers et de soldats qui se battent contre une foule de difficultés réglées et combinées. J'essayais de comprendre quelque chose à l'animation que j'avais sous les yeux, au canon qui grondait tout près de là, et mon génie militaire découvrit rapidement que les uniformes formaient des taches rouges et bleues, absolument ravissantes, au milieu des ajoncs, des roches et des bruyères fleuries. Les cuirassiers brillaient comme l'éclair quand le soleil frappait sur leurs cuirasses. Les dragons, casque en tête, naturellement, passaient comme la foudre sur la route qui est à quelques toises de la platière. Mon Dieu, n'être qu'une misérable femme, ne pouvoir se jeter dans la mêlée, se mettre à la tête de ses troupes pour les conduire à l'éclat de Austerlitz. Au moment où, entre les fracas de 2 coups de canon, mon esprit formulait ce souhait, j'entendis une voix qui voulait évidemment attirer mon attention, et, baissant les yeux, j'aperçus un capitaine qui, le nez en l'air, me regardait et saluait militairement. « Voudriez-vous me permettre, mademoiselle, de monter dans votre tour ?»« À la bonne heure, au moins lui ne prend pas mon pigeonnier pour un pigeonnier. »« Mais que veut-il ? Jeter de mon observatoire un coup d'œil d'aigle sur les armées, et moi, châtelaine, je... »« C'est exquis, cet incident !» « Montez, monsieur, montez !»« Ce n'est pas indiscret, vraiment ?»« Oh, pas du tout. Prenez à gauche, puis... » »« Bah, point n'était besoin de donner des explications. Sans tourner ni à droite ni à gauche, il avait franchi lestement un fossé, en paladin qui se moque pas mal des obstacles. 3 minutes après, il était auprès de moi. « Veuillez m'excuser, mademoiselle, je vous en prie. » Mais à la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas ? Je désire observer ce qui se passe, car j'ai perdu le fil de certains mouvements. Mais il me parut qu'en fait de mouvements stratégiques, c'était ma personne qui l'intéressait au plus haut degré. Pour moi, en le regardant, je conclus que Percé devait être plus élancé, plus beau également, que Roland et son épée avaient peut-être l'air plus martial. Nul n'aurait pu dire qu'il était un franc tout à fait présentable. Nous nous examinâmes pendant quelques secondes de la tête aux pieds, et j'aime à croire que cet examen n'a pas été sans apporter du trouble dans son âme. « Vous pouvez regarder, » lui dis-je en montrant la fenêtre. Il s'en approcha. « Je vous dois des explications, mademoiselle. Voici, mon détachement est dans ce petit bois à gauche. Il faut que j'enveloppe l'ennemi dont je ne discernais plus. Ah, sacré Dieu !» Il sauta vivement en arrière. « Ciel, qu'y a-t-il » criai-je avec terreur. « Jean m'a aperçu. Jean, c'est l'ennemi. Imbécile que je suis, me voilà pris comme dans une souricière. Maintenant qu'ils m'ont vu, je ne puis plus sortir d'ici sans tomber entre leurs mains. Sapristi, quelle sottise !»« Mais il ne faut pas vous laisser prendre, » répondis-je avec ardeur. « Il faut résister ou vous évader. » Résister, c'est impossible. Puisque j'ai commis une lourde faute, il est convenu que me voilà prisonnier. C'est un coup manqué, résignons-nous. Vous résigner, est-ce possible? Se résigne-t-on au déshonneur? Il faut lutter. Partez, agissez, faites une sortie. Le moyen, je les entends qui approchent. Je courus mettre le verrou. Voilà qui nous donne un instant de répit, car je suppose qu'ils n'auront pas l'impertinence d'enfoncer la porte. À présent, ne perdons pas de temps et venez. J'ouvris la fenêtre obstruée par des feuilles. Voici le salut. Passez par là. Vous tombez sur le hangar, vous vous laissez glisser au bas, vous... Mais n'y a-t-il pas quelque danger ? Interrompit-il en reculant. Le danger de vous casser un bras, une jambe, la tête peut-être. Mais qu'est-ce que cela fait ? Comment qu'est-ce que cela fait ? Assurément, dis-je avec impatience, qu'importe une tête de plus ou de moins quand il s'agit d'éviter la honte et de vaincre. Dans un instant, l'ennemi sera ici. Sautez vite, courez rejoindre vos hommes. Pour moi, je parlemente avec l'ennemi, je le retiens, je le berne. Vous avez le temps de ramener vos troupes et c'est vous qui faites prisonnier ceux qui allez vous prendre. Tiens, c'est gentil en effet, mais ce n'est pas prévu, ajouta-t-il en examinant un papier. Pas prévu. Voilà bien l'affreux, l'odieux compas. L'aventure serait amusante, reprit-il d'un air perplexe. Amusante? Mais ce serait un fait d'armes. Mais à votre place, monsieur, j'aurais déjà sauté. Au nom du ciel, sautez! Mais sautez donc! Vous êtes délicieuse, mademoiselle, dit-il en riant. Je saute et tenez bon dans la forteresse jusqu'à ce que je vienne vous délivrer. Il partit, brisant toutes mes pauvres feuilles, mais impossible de connaître son sort. C'est à peine si j'eus le temps de fermer la fenêtre. On montait et je me précipitai à l'ennemi qui criait d'une voix enjouée « Te voilà mon prisonnier, Pierre !» J'ouvris la porte. Il était temps. Le capitaine Jean mettait le pied sur l'avant-dernière marche de l'escalier. Mon apparition, à part les cheveux hérissés et la terreur folle, produisit le même effet que la vue du spectre de Banco sur son assassin, et j'eus bien envie de rire devant le visage réjoui et stupéfait que j'avais sous les yeux. « Mademoiselle, me dit-il, après une minute accordée au saisissement de la surprise, me permettez-vous d'entrer pour obliger mon ami à se constituer prisonnier ?»« Quel ami, quel prisonnier » dis-je d'un ton sévère. « Et de quel droit, monsieur, vous permettez-vous de pénétrer jusqu'ici ?» Nous avons aperçu Pierre par la fenêtre. « N'est-ce pas ? » dit-il en se tournant pour dissimuler son embarras, vers 5 ou 6 soldats et un lieutenant qui se pressaient en masse, cela aurait pu être en masse, sur les marches de mon escalier, au risque de l'effondrer. « Mais oui, mon capitaine !» crièrent 3 voix. « Je l'ai vu comme je vous vois !» ajouta le lieutenant. « Il est là et il faut que nous le prenions !» Il paraissait plein d'audace et d'ardeur, ce petit lieutenant. « Que nous le prenions, comme vous parlez, monsieur !» répondis-je avec des éclairs dans les yeux. « Croyez-vous que je sois femme à livrer un homme qui se serait fié à mon honneur, à ma foi, à mon hospitalité ?» Ils se regardèrent d'un air déconcerté. « Mademoiselle, reprit le capitaine très embarrassé, nous sommes désolés d'insister, mais vous prenez bien au sérieux cet incident. Il ne s'agit pas d'honneur, d'hospitalité, de... « Monsieur, dis-je d'un air courroucé, je suis chez moi, nul n'y pénétrera que par la force. Si vous voulez entrer absolument, je ne puis pas résister, vous êtes en nombre. Mais rappelez-vous que j'ai été contrainte et forcée. » Mentalement, j'avais décidé que Percé, s'il ne s'était pas cassé quelques bras, avait eu le temps d'aller au petit bois, c'était l'affaire d'une minute, de revenir et de cerner le donjon. Le capitaine hésitait entre la courtoisie et les exigences d'une grave situation. Le petit lieutenant, plus digne que son chef de vivre dans des temps extraordinaires, était impatient de fondre en avant, d'autant qu'il semblait fort diverti par mon attitude. Entrons, mon capitaine, entrons. Une Jeanne de Blois sait se soumettre aux vicissitudes de la guerre, quitte à prendre sa revanche. Ils firent un mouvement en avant, j'en fis un en arrière, et, face à l'ennemi, rentrai à reculons dans l'appartement. Ils l'envahirent et s'arrêtèrent stupéfaits en ne voyant personne. « Emmenez votre prisonnier, messieurs » dis-je avec ironie. « C'est incroyable !»« Cependant, dit le capitaine, il n'a pas pu sauter par la fenêtre. Nous l'aurions vu, et puis c'est trop haut. » Il s'en approcha pour examiner le terrain, mais aussitôt il fit un bond en arrière. « Ah, sacrédié !» Il paraît que cette exclamation exprime les sentiments violents de tous les officiers français. Je regardai. Percé, sans bras cassés, Percé intact était en bas avec tous ses hommes et riait en criant « C'est vous qui êtes pris, mes amis. Rendez-vous !» Capitaine et lieutenant se contemplèrent d'un air déconfit. Ils hésitaient entre un éclat de rire et une petite blessure d'amour-propre qui ne me parut pas manquer d'acuité. Mais par où diable a-t-il passé? J'allai à l'autre fenêtre, je l'ouvris, et montrant le hangar, les feuilles brisées, sacrifice offert par moi à la patrie, je fis une révérence hautaine en disant « C'est la revanche de Jeanne de Blois, messire !» À ce moment précis de leur honteuse défaite, M. de la Platière arriva. Le jardinier, croyant ma vie, ou mieux encore, en danger, avait couru épouvanté donner l'alarme. Mon tuteur, qui, dans la circonstance, m'apparut sous les traits de Bartolo, accourait, sans cravate, étendre le voile chasse de sa protection sur mon honneur menacé. « Est-ce que ma maison est assiégée ? » demanda-t-il. « Non, non, monsieur, répondit le capitaine, vous n'aurez pas cet ennui. Ce n'est qu'un simple incident de guerre que mademoiselle vous racontera. Permettez que nous nous retirions, nous avons déjà perdu beaucoup de temps. » Un fait aussi rare, un événement aussi merveilleux, et il appelait simple incident, que la vanité est subtile dans le cœur de l'homme, et comme elle aplatit les hautes cimes à son profit. Ils saluèrent en s'excusant. De la fenêtre, je regardais Percé, qui, tête nue, me contemplait en ayant l'air de dire « Nous nous reverrons ». Et preste, volte-face, départ précipité. Il ne restait plus des hautes cimes que la noble, l'héroïque Jeanne de Blois, en face de Bartolo scandalisé. Chapitre 9. 3 juin. Nous sommes rentrés dans le calme, calme extérieur, j'entends, car l'âme et ses profondeurs, c'est terrible. Mon cousin considère que sa pupille s'est transformée en volcan. Pas un volcan éteint, mais un volcan à éruption continue. Et comme c'est anormal d'avoir, en pleine France, un volcan auquel on ne peut pas dire un mot sans risquer d'être enseveli sous une coulée de lave brûlante, mon cousin n'est pas satisfait. « J'en aurais bien fait autant, » me répète-t-il avec humeur. Le pigeonnier n'a pas plus de 5 mètres de haut et il avait un hangar très plat pour descendre. Par exemple, très plat, je sais bien qu'il glisse puisque quand j'étais enfant, j'en ai essayé. « Un toit affreusement glissant » m'écriai-je. « Il a risqué sa vie avec une désinvolture que je ne vous vois pas, tuteur. Auriez-vous eu cette prompte décision, ce coup d'œil de génie qui métamorphose les situations les plus critiques ? À l'heure présente, vous seriez encore dans votre lit, entortillé dans des compresses d'huile de millepertuis, et je vous ferai chauffer de la tisane. » Tu ne sais ce que tu dis, et ce n'est pas la peine de tant admirer les paladins pour se pâmer devant un méchant petit capitaine qui a la jambe leste. Mon cousin s'ingénie à jeter des seaux d'eau glacée sur le foyer incandescent. Mais éteignez donc un volcan. Je le mets au-dessus de tous les paladins, répondis-je avec feu, de Roland à Roncevaux lui-même. Roland aurait-il sauté sur un hangar? C'est douteux. Dans ce temps-là, ils manquaient de simplicité, les paladins. Ni pigeonnier, ni hangar ne leur eussent suffi, et puis ils n'en avaient peut-être pas, surtout dans un col des Pyrénées. Roland y est mort, mais il ne pouvait pas faire autrement, tandis que... Ah, cousin, quel paladin! C'est admirable! Monsieur de la Platière assiste avec effroi aux convulsions de la nature dans mon âme volcanique. Tu m'as dit, du reste, qu'il avait hésité et que c'était toi. Mais c'était de la prudence, cousin. Et la prudence est une qualité, même une vertu. Voyez plutôt les traités de perfection. Ils enjoignent tous de marcher avec prudence, de peur des chutes et de l'orgueil. Mon tuteur n'est pas convaincu. Chapitre 10. 6 juin. Percé, percé, les brises amoureuses t'apportent-elles mes soupirs? Quoi qu'en pense monsieur de la Platière, de nouveau tu apparaîtras dans mon donjon, tu te jetteras aux pieds d'Andromède qui montera sur ton coursier ailé. Je pense que le coursier ailé, c'est l'amour. Et fouette cocher, nous voilà partis. Combien cette soirée est chaude, étouffante! C'est mon cœur qui brûle sans doute, à moins que ce ne soit la faute de ce temps orageux. L'orage arrive, comme dans les romans, où il encourage toujours la morale à marcher tout de travers. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi un orage est nécessaire au naufrage de la morale. Dans la vie réelle, elle s'en tire si bien sans cet assaisonnement. Enfin, mon âme exaltée suit la tradition et marche de travers. Et dans le vent qui commence à souffler avec furie, semblable au simoun énervant, je vois, j'entends la passion de lui. C'est bien ainsi, dans les éléments déchaînés, ou du moins qui pourraient l'être, que doit s'exprimer l'amour d'un capitaine qui saute sur un hangar. Mon cousin, lui, n'y verrait que le commencement d'une tempête, ses arbres brisés et les cloches de ses melons écrasées par la grêle.